RTL.
Des humains et des animaux fuyant pour leur vie, des paysages d'apocalypse et un brouillard d'enfer. Au cours des trois derniers mois de 2019, environ 5 millions d'hectares sont partis en fumée en Australie. Près d'un milliard d'animaux affectés et des écosystèmes ravagés.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Sidonie Bonnec.
Bonjour Frédéric
Danhé. Bonjour Thomas Hugues.
On est bien urbain pour
commencer. Bienvenue dans notre curiosité. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de l'environnement, sociétaire de notre émission aussi.
C'est vrai que ça fait quelques visites.
L'Australie brûle, les feux continuent de tuer. Est-ce que ce matin on a appris d'ailleurs qu'un avion bombardier d'eau s'est écrasé et a fait 3 morts, 3 Américains. Est-ce que vous pouvez nous poser le bilan humain, végétal et animal aussi des pertes?
Bilan humain, 31 morts. Bilan physique, géographique, l'équivalent d'un cinquième de la France ou la totalité de l'Irlande ou tout le Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, etc. La Hollande, qui sont partis en fumée, hein, ça représente 10 millions d'hectares. Sur les animaux, alors vous savez, des chiffres circulent, 1 million, de milliards d'individus, d'animaux, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est les espèces qui sont mises en danger par la réduction de leurs habitats. On estime que 272 espèces de poissons, et oui, 16 de mammifères, 14 espèces de grenouilles, 90 espèces d'oiseaux, 4 espèces d'insectes, une espèce de... Ça y est, j'ai perdu ce que j'avais en tête, sont aujourd'hui menacées, et notamment parmi les mammifères, la plupart sont des marsupiaux qui ne vivent que là, qui ont une vie assez compliquée, un métabolisme lent, et notamment le koala, qui pourrait être conduit à l'extinction, non pas tant à cause des incendies, mais parce que les incendies ont aggravé les problèmes qui pèsent sur cette espèce.
Alors on va décortiquer tout ça et découvrir quels sont les animaux qui sont en danger. Et à la faveur de ces conditions climatiques, il y a aussi des animaux qui prolifèrent, comme les araignées entonnoirs qui se baladent en Australie et qui font peur à tout le monde.
Déjà, elles ont un nom sympa, c'est quoi ?
Qu'est-ce qu'elles ont ?
Ah bah c'est qu'elles ont déjà, elles sont très poilues. Elles sont assez grosses, elles ont la taille d'une main. Les Anglais, les Australiens les appellent les funnel web spiders. Effectivement, elles font des nids qui ressemblent à des entonnoirs, enfin des nids d'étoiles qui ressemblent, qui ont la forme d'entonnoirs dans les buissons des jardins à Sydney. On la trouve surtout à Sydney.
Ouais.
C'est une araignée qu'il vaut mieux éviter de rencontrer, surtout un mâle. Alors comment différencier un mâle d'une femelle? Je n'en sais strictement rien. Le mâle est assez chatouilleux et s'il l'estime comme un vieux chat que vous attentez à son intégrité physique, bah, il va vous mordre. Et la piqûre est très dangereuse. Néanmoins, il n'y a pas beaucoup de morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a un anti-venin qui est développé d'ailleurs grâce à des lapins qui sont, eux, pour le coup, le vrai problème de l'Australie.
Ça, on va en parler. Mais quel lien entre ces araignées entonnoirs ?
Parce que ça fait de la place.
Ah, d'accord.
Ça fait de la place, ça brûle tout et en gros, ça il y a plus de concurrence, il y a plus de proies. Et puis, les araignées, la chaleur favorise manifestement l'éclosion des œufs d'araignées. Et puis, les araignées ont quand même peur du feu et donc elles se rapprochent des villes et du coup, elles rentrent dans les maisons, etc. etc. Mais bon, vous pouvez quand même aller en vacances tranquillement en Australie, vous n'aurez pas de problème, a priori.
Frédéric Danhé, oui. Comment ces incendies qui ont commencé en septembre ont démarré? Comment tout a démarré?
Ça a démarré par un orage, un simple orage qui allumait une Australie qui avait été considérablement asséchée. Parce que il fait plus chaud qu'avant, c'est le changement climatique. Deux, il y a la conjonction de deux phénomènes météorologiques très complexes sur lesquels je ne m'étendrai pas, à la fois sur l'océan Indien et sur l'Antarctique, qui font que, premièrement, on a un anticyclone sur l'ouest de l'Australie qui fait qu'on a un air très sec sur l'Australie. Mmh. Puis deuxièmement, on a des vents d'ouest qui ont augmenté à cause d'un phénomène sur l'Antarctique. Et du coup, on a un air très sec, balayé par un vent très violent, qui arrive jusqu'à l'est de l'Australie et qui a asséché tout le sud-est de l'Australie, plus un ensoleillement très important qui a concouru encore un peu plus au niveau des plantes à les dessécher. Il a suffi d'une petite flamèche liée à un orage au mois d'octobre et boum, tout a cramé. Et ça ne s'est arrêté que parce qu'il n'y avait plus rien à brûler.
Ouais, mais pourquoi? Et encore, on l'a vu, hein, parce qu'il y a un bombardier d'eau qui s'est écrasé aujourd'hui, donc on a vu qu'il y a encore quand même des résidus de feu à combattre. Pourquoi les pompiers ont eu autant de difficultés?
Parce qu'on ne peut pas arrêter un feu. Il faut bien comprendre qu'on est sur des étendues gigantesques. Ouais. Deuxièmement, le feu est entretenu lui-même. Le feu s'entretient lui-même. Au-delà d'une certaine taille, si vous voulez, il y a tellement de particules en l'air que ces particules frottant entre elles créent en gros un petit courant électrique qui, à un moment ou un autre, va obliger un orage à se créer, si vous voulez. À un moment ou un autre, il y aura une décharge électrique.
Et ça repart derrière.
Et ainsi
de suite. Ça recrée un incendie.
Voilà. C'est le même principe qu'on a dans les nuages des explosions atomiques, par exemple. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais on a constaté ça. C'est-à-dire que c'est une fois que le nuage il est en l'air, eh ben, on a une génération spontanée d'incendies qui entretiennent le nuage. Et quand il n'y a plus rien à brûler, ça s'arrête.
Qu'est-ce qui a été dévoré en fait dans la forêt? Quelles espèces végétales ont déjà disparu? Alors pas forcément les espèces, mais quels sont les arbres qui sont partis en fumée? Les herbes, tout ce qu'on ne connaît pas forcément nous en France.
En fait, si on connaît assez bien, parce que ce qui a cramé et ce qui est à l'origine de cet incendie, ce sont les eucalyptus. Et les eucalyptus ont besoin pour vivre, pour se reproduire des incendies. Donc c'est en ça que c'est pas si grave que ça. Les eucalyptus ont besoin pour germer, ont besoin pour coloniser des territoires, de brûler en fait.
Pourquoi ? Parce que les cendres après vont comme polliniser les sols en quelque sorte ?
Exactement. C'est-à-dire que tout ce qui tombe dans le sol, les graines, alors premièrement ça fait place nette, donc il n'y a plus de concurrence pour les eucalyptus. Et puis deuxièmement, les graines ont besoin de... Il y a beaucoup d'espèces comme ça, hein. Les graines ont besoin de chaleur pour germer. Donc en fait, ce qui va se passer là, certes l'incendie est gigantesque, c'est du jamais vu, mais il y a 54 incendies par an en Australie, et les forêts d'eucalyptus sont habituées à ça. Il y a un équilibre qui se crée entre l'incendie et le départ d'une forêt après un incendie. Donc là, de toute façon, ça va repousser.
Donc cette espèce-là ne va pas périr.
Au contraire,
elle va presque en profiter.
Exactement.
Et avec un risque de quoi?
Qu'elle envahisse, entre guillemets, qu'elle colonise d'autres écosystèmes. Par contre, ce qui a été menacé, ce qu'on a perdu, ce sont les forêts humides dans le Queensland. Là, ce sont des forêts très denses, très touffues, ce sont des forêts tropicales qui n'étaient pas habitués aux incendies, et là, tout a disparu. Or, quand on voit le taux d'endémisme, c'est-à-dire le taux d'espèces, le nombre d'espèces qui n'existent que là, c'est une perte nette pour la biodiversité, parce que ce sont, peut-être, des espèces qu'on ne retrouvera jamais plus.
Il y a beaucoup d'espèces endémiques, on va pouvoir détailler après, mais en Australie, comme c'est un pays continent, il est riche en espèces endémiques.
Ben, il y en a chez les vertébrés, c'est-à-dire les mammifères, les oiseaux, les grenouilles, les reptiles, les poissons, c'est entre 80 et 90% d'espèces qui n'existent que là. Chez les oiseaux, c'est un peu moins, c'est 45%, mais par exemple, chez les mammifères, on est à 84% si ma mémoire est bonne. Il n'y a que en Australie, sur l'île de Tasmanie également, un peu en Nouvelle-Zélande, qu'on a des marsupiaux, c'est-à-dire des mammifères avant les mammifères, hein, ceux qui, dont la gestation se termine dans une poche.
Comme les koalas, par exemple, qu'on a vu brûler, ces images absolument bouleversantes, ou alors lovés dans les bras de certains habitants qui parvenaient à les sauver.
T'es prête? Je te disais, je me lance.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Quoi?
Alors on va relancer la boule.
On est bien entre curieux.
Australie.
Ah non, pas encore.
Sur RTL.
On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
In Excess pour nous accompagner, que des groupes australiens évidemment, puisque dans la curiosité, on découvre ces espèces menacées par les incendies, les méga incendies qui font des ravages là-bas depuis des mois. On est avec Frédéric Danhé, écrivain, journaliste spécialiste de l'environnement. Alors vous nous racontiez le nombre, et le chiffre est impressionnant, d'espèces endémiques qui vivent sur ce pays continent. Et notamment les marsupiaux. On va parler des koalas. Est-ce que cette espèce est la principale victime des incendies ? C'est vrai que médiatiquement, on a énormément vu d'images, parce que voilà, c'est un animal qui est mignon, qu'on a identifié, qu'on a envie de prendre dans ses bras. Est-ce que c'est la principale espèce touchée par les incendies en Australie ?
Non, c'est vrai qu'on a moins parlé du bandicoot rayé, par exemple, qui est une musaraigne marsupiale, qui est très mignon. Moi, j'aime beaucoup les musaraignes.
Oui.
Bref, c'est des...
Oui, mais ça nous intéresse. On parle à la musaraigne. On finit avec le koala, peut-être. Allez. Et puis on se fait la musaraigne.
Non, le koala, oui, il est menacé parce qu'il était déjà menacé par une infection, une bactérie ou un virus, je ne sais plus, qui conduisait à sa cécité. Donc c'est une espèce, mais comme la plupart des espèces endémiques en Australie, menacée par plein de choses. Et l'incendie a détruit une bonne partie de son habitat. Donc il n'est pas sûr du tout que l'espèce survivent en l'état. Le problème, c'est pas tant qu'il y ait les 30% des koalas, c'est ce qu'on dit, qui ont disparu, c'est que sur les 70% qui restent, le risque, c'est qu'il n'y ait plus assez de reproducteurs. Le risque, c'est que la reproduction se fasse mal. Le risque, c'est la consanguinité qui altérerait la pérennité de l'espèce.
J'imagine qu'il y a des zoos qui conservent les espèces. Voilà, c'est la fonction des eaux aujourd'hui en Australie. Est-ce qu'on peut réintroduire ces koalas pour pouvoir justement éviter cette consanguinité?
Je fais bien de le dire, c'est la fonction destruction des eaux. On n'arrête pas de taper sur les eaux. Les antispécistes disent que c'est une honte. Mais s'il n'y avait pas d'eau, dans le monde, il y a des espèces qui auraient carrément disparu, comme les rhinocéros. Pour le koala, c'est pas le problème. Donc il y a des eaux qui ont ce qu'on appelle un stud book, c'est-à-dire qui ont des koalas mâles ici, des koalas femelles là, et qui, au besoin, peuvent les faire se rencontrer pour. Mais c'est très compliqué avec les marsupiaux. Et je crois que pour l'instant, on n'a jamais réussi la réintroduction dans le milieu sauvage d'individus qui sont nés dans un zoo. Et puis, il y a cette idée de... Il y a une pétition qui a circulé en Nouvelle-Zélande. Donnez-nous les koalas, on va les acclimater chez nous. Ce qui est la dernière connerie à faire, c'est jouer avec le feu, pour le coup. À chaque fois que, dans notre histoire, on a tenté d'introduire un animal dans un environnement qui n'était pas le sien, ça a donné le lapin, ça a donné le chat, ça a été une catastrophe à chaque fois. Donc, ça fait rire les scientifiques, mais ça les fait rire. Je ne sais absolument pas la solution.
Ouais, d'ailleurs, on va développer l'histoire des lapins en Australie, parce que c'est une bonne histoire, mais il faudra prendre le temps de le faire. Là, je voudrais qu'on reste sur les marsupiaux. On a parlé des koalas. Les kangourous, ils ont été impactés eux aussi par ces incendies ?
Non, les kangourous se portent bien. Alors, non pas parce qu'ils sautent plus haut que les flammes, mais ils se reproduisent bien. Ils sont très mobiles. Le problème de ces espèces, koalas et compagnie, c'est que c'est des animaux peu mobiles.
La musaraigne marsupiale ?
Vous savez, quand les dinosaures étaient là, c'est les musaraignes qui ont été les premiers représentants des mammifères à résister parce qu'ils pouvaient se planquer. C'est un peu la même chose. Plus on est petit, finalement, moins on risque. Sauf que là, les musaraignes ont risqué beaucoup et se déplacent pas assez vite. Le koala, c'est la même chose. Les kangourous, non, ont été très peu impactés. Il n'en reste pas moins les incendies, parce que simplement, ils ont réduit, je reviens à ça, c'est pas la menace physique liée aux incendies, c'est la restriction des habitats dans lesquels des individus, des espèces qui ont des habitats très 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 réduits, comme ces musaraignes, souvent c'est quelques kilomètres carrés sur une petite niche écologique, et si le feu passe dessus, c'est terminé. Ils n'ont plus de conditions de vie, tout simplement.
C'est vrai aussi des oiseaux ?
Oui.
C'est pour ça qu'il y a des espèces qui sont menacées ou qui ont disparu Australie ?
Les oiseaux ont des ailes, donc ils ont la capacité de se barrer. Mais il y a des oiseaux qui ne se nourrissent que de certaines graines. Alors, ce n'est pas le cas manifestement dans les forêts d'eucalyptus, mais dans les forêts humides, tropicales humides du nord du Queensland, où il y a un taux d'endémisme très fort, sur un arbre, vous pouvez avoir par exemple une espèce qui dépend pour une partie de sa vie à l'année, des graines ou des feuilles de cet arbre-là. Si cet arbre disparaît de fil en aiguille, vous avez l'oiseau qui est menacé dans son existence même, parce qu'il n'a plus une partie de ce qui fait que son existence est possible.
Frédéric Dandy, il y a d'autres animaux qui sont impactés, auxquels on ne pense pas toujours. La chauve-souris, le kangourou rat dont vous vouliez nous parler ?
Oui, alors les chauves-souris, c'est une des plus grosses biodiversités de chauves-souris se trouve en Australie. Des petites chauves-souris, alors elles ne sont pas marsupiales celles-là, évidemment, sont des chauves-souris. Effectivement, elles sont menacées parce qu'elles dépendent, encore une fois, d'arbres qui parfois n'existent qu'en un seul endroit. En plus, ce sont des animaux qui sont très sensibles aux virus, qui sont très sensibles aux bactéries. Donc en fait, c'est la multiple peine pour les chauves-souris, par exemple. Elles sont victimes de ça, de cette fragilité. Elles sont victimes de la réduction de leurs habitats à cause de l'étalement urbain, comme chez nous. Plus les incendies font qu'elles sont altérées. Faut pas imaginer que cet incendie a détruit des espèces entières. Cet incendie, encore une fois, ne fait que rajouter une pression supplémentaire à un écosystème australien qui est menacé depuis que l'homme blanc y a mis les pieds.
Et ça nous permet aussi de découvrir ces espèces. Si on disait le kangourou rat, ça ressemble à quoi ça ?
Un petit kangourou ou un petit rat, je sais plus. En fait, je sais plus.
Les deux en même temps, comme son nom l'indique.
Frédéric Dandy, ce qui est intéressant, et ça c'est ce que vous nous apportez aussi, c'est qu'évidemment on s'intéresse aux animaux qui disparaissent, aux arbres, à tout ce qui est un peu visible, puis à tout ce qu'on ne voit pas, par exemple ces sols brûlés en Australie. Quelle faune ils abritent ?
C'est un peu comme chez nous. On a des insectes, on a beaucoup d'invertébrés, on a les équivalents écologiques de nos vers de terre. Mais ça c'est la question la plus intéressante en fait. Les eucalyptus peuvent repousser parce qu'on a un sol qui est capable de les faire repousser. Oui. Si le sol peut supporter un incendie, mais si les incendies, comme ça semble être ce que nous prévoient les climatologues, si ces incendies arrivent trop fréquemment, la fertilité du sol risque de disparaître. Tout ce qui vit dans le sol et qui fait que le sol ne part pas la première pluie risque de disparaître. Donc le gros risque, c'est que le sol disparaissent tout simplement et qu'on puisse ne plus avoir de renaissance de ces forêts.
On rappelle que le sol disparaît parce qu'il y a, voilà, y a des vers de terre, il y a des espèces qui le font respirer, c'est ça en quelque sorte, qui l'enrichissent.
Le sol, c'est une création des animaux. Ouais. Le sol, c'est un écosystème vivant qui est fabriqué par des êtres vivants. Le sol, c'est tout ce qui a été digéré par des tout petits animaux. Ouais. S'il n'y a plus de vers de terre, s'il n'y a plus de collemboles, s'il n'y a plus les champignons surtout, il y a 420 000 espèces de champignons en Australie. Si ces champignons dans le sol n'existent plus, il n'y a plus de sol. Et s'il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les années 30 aux États-Unis, hein, les raisins de la colère, le sol qui fout le camp et qui conduit 3,5 millions d'Américains à migrer en Californie, dans le Manitoba, au Canada. C'est lié au fait que, parce qu'on avait trop labouré un sol très léger comme les sols australiens, bah le sol a foutu le camp et on n'a plus pu cultiver aux États-Unis pendant une quinzaine d'années. Le risque, c'est ça. A priori là, ça devrait aller, mais il ne faudrait pas que demain, l'an prochain, il y ait un incendie de même ampleur.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La faune australienne, une diversité singulière.
Sur RTL,
environ 6000 espèces, des plus mignonnes aux plus effrayantes.
La curiosité est un vilain défaut.
À plus de 14 000 km du continent australien, les représentations de cette faune exotique sont empreintes de clichés.
Nous sommes avec Frédéric Danhé, écrivain, journaliste, spécialiste de l'environnement. Et avec vous, on découvre cette Australie dévastée. On fait le bilan et on parle de l'avenir aussi. Il y a du positif. Mais pour le négatif, c'est 10 millions d'hectares de forêt partis en forêt. L'Australie aurait perdu 11% de ses 273 espèces de mammifères endémiques. Endémiques, ça veut dire que ça n'existe que sur cette île continent. Et ce qu'on va apprendre avec vous, et ça c'est passionnant, c'est que l'humain a eu la mauvaise idée d'introduire des animaux sur ce territoire, cette île continent, il y a quelques dizaines d'années, centaines d'années même. Mm-hmm. Ça commence avec les lapins. Quelle est la bonne idée de cet Anglais en 1859?
Il voulait chasser comme chez lui. Donc il a importé des lapins, des passereaux, des moineaux. Et puis ça a été une belle connerie parce que, comme vous savez, les lapins se reproduisent comme des lapins. Mm-hmm. Hein, 5 portées par an. Ça fait que le lapin a tout envahi. Le lapin a bouffé tout ce qu'il pouvait et en bouffant tout ce qu'il pouvait, bien, il a réduit la niche écologique de plein d'espèces locales, plein d'espèces marsupiales notamment. Et puis à force de manger des végétaux, il a mangé des racines, et puis les racines tenaient les sols, et du coup, érosion des sols, etc. C'est une catastrophe, les lapins. Mais dans les 11% que vous avez dit, pardon Thomas, dans les 11% d'espèces de mammifères qui ont été conduites à l'extinction, c'est pas lié aux incendies, c'est lié aux lapins, c'est lié aux chats, il y a toutes les espèces qu'on a introduites, et oui.
D'accord, mais alors ce qui est dingue, c'est d'imaginer 12 couples de lapins, c'est ça, apportés par cet Anglais en 1859, qui donne leur descendance, c'est en millions, quoi.
Ça a été jusqu'à 600 millions, je crois, de lapins. On les a réduits en leur balançant la myxomatose. C'est une maladie qui rend les yeux rouges et puis qui finit par les tuer dans les années 1950. On avait réduit à ce moment-là la population en 300 millions. Ensuite, on a essayé le tir, on a essayé de leur balancer du phosphore, des furets aussi qu'on a importés, qui sont donc allés ensuite manger des marsupiaux. On les a labourés aussi. On a labouré des champs entiers, des hectares entiers.
Et ils sont toujours là.
Et ensuite, on a essayé à partir de 1995 de leur introduire un virus, le virus hémorragique du lapin, le RHDV. Ça a été une catastrophe parce que ce virus s'est propagé à d'autres espèces. Et là, on a réessayé en 2017. Manifestement, c'est un peu mieux contrôlé. Et on espère réduire la population de lapins à moins de 100 millions, ce qui est déjà trop.
Bon, on a fait le lapin et c'est pareil avec le chat, c'est ça?
Le chat a été introduit pour manger quoi? Le lapin. Et le chat a pullulé et il s'en est pris à tout, aux oiseaux, il s'en est pris aux mammifères, notamment à celui dont je vous ai parlé, le bandicoot doré, le bulbi aussi, qui est une autre musaraigne. Je fais une fixation sur les musaraignes. Vous imaginez une espèce de petit rat avec une trompe d'éléphant. Ouais. C'est très petit, hein. Il y en a en France, il y en a partout. C'est l'équivalent de nos musaraignes. Les échidnés, qui sont l'équivalent des porcs-épics. Voilà, le chat, c'est le plus gros tueur de la faune australienne, c'est le principal responsable de la chute des populations d'oiseaux.
On a vu de terribles images en Australie de dromadaires carrément tirés, snipés. Pourquoi on tue les dromadaires en Australie? On les a aussi importés, on veut aussi s'en débarrasser?
On les a importés, ils sont 1 million. On les avait déjà... la population avait été réduite par la sécheresse de 2009. Ils étaient tombés à 750 000. C'est encore beaucoup trop. Pourquoi? Parce que les dromadaires mangent beaucoup d'eau, boivent beaucoup d'eau. Et quand vraiment ils ont très très soif, ils se rapprochent des villes, ils se rapprochent des fermes. Et donc ils arrivent en concurrence directe avec les autres animaux. sauvages et avec l'homme. Donc, on les a toujours tirés. Selon mes derniers chiffres, je crois que c'est 56 € la prime que vous touchez, vous, si vous amenez un cadavre de dromadaire auprès des représentants du gouvernement. Non, c'est une vraie calamité. Donc, le fait qu'on en tire aujourd'hui tant et plus, c'est pas... évidemment, ça peut nous choquer, nous, mais il faut voir ce que c'est là-bas. C'est une vraie calamité.
Donc, la moralité de ces histoires, c'est de ne pas importer d'espèces,
jamais.
C'est ça.
On ne joue pas avec la nature, c'est ça ?
Jamais, on ne joue pas avec la nature. Il y a une seule fois où ça a fonctionné, c'est notamment grâce à la France. Quand on a introduit les vaches là-bas, il y a 30 millions de vaches, il y a plus de vaches que d'Australiens en Australie. Quand on a... Les vaches sont arrivées, elles ont fait caca, comme toutes les vaches, sauf qu'il n'y a pas les insectes là-bas pour se nourrir des cacas des vaches.
Ah, les bousiers, non ça ?
Les bousiers,
il n'y a pas les bons bousiers.
Et donc c'est la France, mesdames, messieurs, sachez-le, bravo. Ce sont des bousiers tricolores qui ont été exportés là-bas et qui manifestement sont en train de régler le problème. C'est un problème qui est très simple. La bouse reste, elle étouffe le sol en dessous. Et puis surtout, la bouse, c'est l'hôte traditionnel des mouches. Donc vous avez des endroits en Australie où vous ne pouvez plus avancer parce que ces endroits sont envahis de mouches. La seule solution, ce sont donc des bousiers qui ont été exportés par l'INRA de Montpellier en 2016. Et on pense que d'ici 2026, le problème des bouses aura été réglé par ces bousiers. Après, il faut espérer qu'ils ne vont pas...
Ah, ça vaut une petite
marseillaise. On se lève pour les bousiers français.
Pour les merci bousiers tricolores. Merci Frédéric Dorier pour cette information. On va terminer avec,
capital, hein.
Avec une note... Oh, mais c'est très drôle en plus. On va terminer avec une note positive. Je ne sais pas si cette image vous a tous marqué, mais c'est comme une coulée verte des arbres sauvés au milieu d'un paysage de cendres. Et Frédéric Dorier, ces arbres, ils ont une histoire particulière. Ils sont... On les surnomme les arbres dinosaures. Pourquoi ?
Oui, c'est des pins de Volémie, c'est des araucarias en fait. Les araucarias, on en a dans quelques jardins de pavillons. Ce qu'on appelle les coussins de belle-mère aussi. Parce que c'est plein d'épines très méchantes comme les belles-mères.
Oh, ça dépend des belles-mères.
Ah, oui.
Ça dépend des belles-mères. Bon, je vous parlerai
son histoire,
de la mienne.
D'accord, ok.
Voilà.
Le message personnel est passé. Bref, ces arbres,
il a fallu les sauver,
ces arbres.
Ils datent du Jurassique, c'est vraiment le Jurassique Park. Ils n'ont pas évolué depuis 200 millions d'années. Ils sont inféodés, évidemment, parce que les autres espèces d'arbres avaient évolué. Donc, ils sont planqués dans une toute petite, pas une caverne, dans un petit sillon, un canyon, pardon, au-dessus de Sydney. Leur localisation exacte, évidemment, n'a pas été rendue publique pour ne pas qu'ils soient abîmés, ne serait-ce que par les bactéries, les virus portés par les promeneurs humains. Et donc, on a débarqué des policiers, des pompiers en rappel pour les protéger, les préserver et pour éviter qu'ils ne disparaissent. Parce que là, pour le coup, c'est une espèce qui n'existe que là, dans un vallon. Uniquement dans un vallon.
Et qui est resté secret, ce vallon.
Voilà,
on a juste vu l'image, on ne sait pas où c'est.
Merci beaucoup Frédéric Dorier, c'était passionnant comme à chaque fois sur RTL. La cause végane, un nouvel intégrisme, c'est votre nouveau livre et c'est chez Buchet-Chastel. À bientôt,
vous avez
bon
reçu trop de courriers pour ce livre ?
Si, je pourrais vous en parler.
Ah ben, pourquoi pas, on se retrouvera.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.